grosse marketeur qui a été recruté chez Tinder pour gérer l'Europe. Il s'appelle Morad Adjaoud et c'est toujours un copain. Je l'ai rencontré dans le train à 8h du matin pour aller au ski à la Winter. Et je me rappelle, il était 8h du matin, il avait une Heineken déjà à la main, une petite bière. Donc tu vois l'ambiance un peu décomplexée et lui, il gérait Tinder. Et il me parle, on s'entend super bien. On se retrouve après l'événement et il me dit écoute, pour le moment j'ai que la France, mais si on est bon, on peut gérer l'Europe. Et puis on a été bon. Et comme Tinder faisait pas de campagne en Europe, bah on a récupéré l'Europe. Et un jour, on a récupéré les US.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 90e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réels qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Lancer, construire, vendre et tout recommencer pour bâtir cette fois-ci une entreprise encore plus grosse que la première représente le chemin parcouru dans les 8 dernières années par mon invité du jour. Jérémy Bendayan, cofondateur de l'entreprise Splash Air, a pris le temps aujourd'hui de partager avec nous les secrets derrière la croissance très rapide que sa première entreprise Ads Visors a connue de 2013 à 2018 avant d'être acheté par l'entreprise cotée en bourse Quamplify. Avide de nouveaux défis, Jérémy s'est remis à l'entrepreneuriat avec ses associés et a fondé Splash Air en 2019, une entreprise de création de contenu sur les médias sociaux qui a déjà atteint 7 millions de chiffres d'affaires annuels seulement 2 ans après sa fondation. Sans plus attendre, ma discussion avec Jérémy Bendayan. Jérémy Bendayan, tu es cofondateur de l'entreprise Splash Air, une organisation qui se spécialise dans la création de contenu vidéo pour les médias sociaux. Préalablement à Splash Air, qui est maintenant rendu à plus de 30 collaborateurs, tu as fondé l'agence Ads Visors, une entreprise que tu as vendue en 2019 et qui, au moment de la vente, gérait près de 100 millions à l'année en placement média. Jérémy, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Salut Antoine, écoute, très très content d'être avec vous et avec Hypercroissance pour partager un peu mes actus et également mon parcours. Parce que c'est vrai qu'on en parle un petit peu avant, je suis très fier de pouvoir partager tout ça avec vous et de pouvoir échanger et de répondre à toutes tes questions en tout cas.
Ben, je pense que la conversation va être fascinante, Jérémy. Puis l'objectif de la conversation aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à, puis ça c'est important de bien comprendre pour les gens qui nous écoutent, construire une agence, la vendre et ensuite reconstruire une autre agence dans sensiblement le même milieu. On va également parler de ton parcours d'investisseur, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu partager avec l'audience aujourd'hui la genèse derrière la création de Ads Visors?
Yes. Alors, Ads Visors, déjà, c'est un nom qui est très compliqué à dire. Et souvent, quand on monte une boîte, on dit attention, fais attention au nom. Lorsqu'un commercial il est au téléphone et qu'il présente une boîte, c'est compliqué. Et nous, c'est vrai que ce nom, il a été fait un peu naïvement. En fait, j'ai un copain à moi qui bossait chez Google et il m'a dit écoute, Jérémy, il faut que ton nom, on comprenne tout de suite dans ton nom qu'est-ce que tu fais. Donc, Advisor, c'est un conseiller en anglais, et Ads Visor, on a voulu jouer sur un jeu de mots. Mais visiblement, c'est assez compliqué à l'oral. Et c'est vrai que, bon, ça nous a pas mis une épine dans le pied après, mais ça nous a permis de monter cette boîte. Donc, un peu naïvement, on a imaginé ce nom avec un pote qui bossait chez Google. Et en fait, si tu veux, je suis tombé un peu par hasard dans cette activité. À la base, j'étais pas prédestiné à monter une boîte comme ça et à la revendre. Si tu veux, au tout début, moi, je te raconte un petit peu mon parcours. J'ai fait des études d'expertise comptable. Donc rien à voir, j'étais à la faculté, à l'université en France, à Paris. Mais j'ai toujours été passionné par le digital et par le web. Et donc je me suis réorienté après mon master 2 en contrôle comptabilité audit. J'ai fait un MBA en e-business. Et donc j'ai commencé à apprendre le digital marketing, même si je suis passionné par le web et le digital depuis petit. Et si tu veux, j'ai commencé à rentrer dans cet univers. J'ai tout de suite trouvé ma voie. Et en fait, j'ai fait un stage dans une agence dans le sud à Montpellier qui m'a beaucoup plu. C'était une agence média qui s'appelle JV Web, qui gère des campagnes d'ads sur Google, Facebook, etc. Et en fait, ils étaient très, très forts, assez précurseurs. Ils étaient très proches de Google déjà à l'époque. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses chez eux. Donc, je suis parti à Montpellier spécialement là-bas parce que je savais qu'ils avaient une belle expertise. Donc, pour me former, j'ai pas eu peur de me déplacer, tu vois, j'habitais à Paris et de partir un peu dans le sud, de démarrer cette aventure. Et puis, quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, bon, j'ai appris un super job, je vais devenir freelance. et je vais lancer mon activité comme ça, tu vois, je vais vendre mes services. Moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses et je suis souvent un peu éparpillé, c'est ça mon problème. Et j'aime bien faire des choses, donc il faut que j'arrive à me focaliser. Mais à l'époque, je me suis dit, bah, le métier de freelance, c'est bien parce que ça me permettra de faire d'autres choses à côté et de pas être forcément dépendant d'un patron ou pas forcément d'une boîte avec des employés. Et puis, j'ai monté ma boîte et j'ai un copain à moi que je connaissais depuis 10 ans qui me dit, écoute, j'ai envie de monter un site e-commerce pour la pharmacie de ma mère. Il avait une pharmacie, sa mère avait une pharmacie et à l'époque, il voulait monter un site en ligne. Il y a de ça, il y a 8 ans à peu près. Et moi, je lui dis, écoute, ton idée, c'est trop compliqué parce que faire de la pub sur de la pharmacie, c'est impossible. Il faut faire du SEO, etc. Donc, c'est très complexe. Mais si tu veux, je t'aide. Par contre, moi, je cherche un cofondateur sur ma boîte. J'aimerais bien quelqu'un qui fasse un peu le sales pour qu'on puisse signer un peu des clients. Mais toujours avec l'ambition de pas faire quelque chose de gros. Me dire, je vais être un peu freelance amélioré. On va être deux. Et on va faire une activité un peu comme ça, un peu simple. Et au final, si tu veux, bah de fil en aiguille, le truc a bien marché. Et on a lancé Advisors qui s'est développé et que après j'ai vendu en 2019, je crois effectivement 2018-2019. Et ce qui était cool, c'est qu'effectivement, on gérait beaucoup de budget média. C'est-à-dire que en fait, à l'époque, si tu veux, tu avais plein d'agences qui existaient et c'était pas le même marché. Aujourd'hui, tu as un marché où tu as des agences un peu spécialisées qui ont pas mal de compétences. À l'époque, en fait, tu avais des grosses agences, Havas, Publicis, qui géraient le média online, le offline, etc. Et nous, on arrivait, on disait, on est pure player, on fait que du search ads, search marketing. Personne faisait ça. On avait 5-6 concurrents. Et à l'époque, c'était intéressant parce que les annonceurs, les directeurs marketing, ils disaient, moi, j'en ai marre de bosser avec une agence qui comprend rien en digital, je veux prendre des pure players, des spécialistes, search, donc je vais chez vous. Et donc, nous, on a signé plein de clients comme ça. Alors, au début, c'était pas simple. Au début, on a vraiment beaucoup galéré parce que on n'avait pas de réseau, on démarrait comme ça de petits jeunes et on a essayé toutes les techniques pour signer du client. Mais après, au fur et à mesure, comme on était spécialiste, on avait un cœur de métier, les gens venaient chez nous pour chercher cette expertise. Un peu comme quand tu vas chez le médecin, tu peux voir le généraliste, le cardiologue. Et le cardiologue il est plus expert dans son domaine. Et c'est un peu ça qu'on mettait en avant à l'époque. Et surtout que Google Ads, c'était le premier canal d'acquisition sur le digital. Donc, en 10 ans qu'on est pure player, on couvrait déjà 80-90% du marché parce que les dépenses médias se concentraient sur Google à l'époque. Tu vois. Donc c'était ça un petit peu l'histoire de Advisors. Et peut-être pour rentrer dans les détails business, parce que ça peut intéresser les auditeurs, c'est vrai que quand tu lances une boîte, au début t'as pas de clients, comment tu trouves tes premiers clients? Alors nous on avait un petit peu de réseau, mais le réseau c'est bien, t'appelles ton père, il a un ou deux copains, voilà, tu vas signer tes premiers clients comme ça, on est monté à 5-6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On était content, on pouvait en vivre. Mais bon, on se disait, maintenant, on en veut plus, tu vois. On a voulu envie d'accélérer un peu la chose. Et alors, je me rappelle, on a été sur Google, on tapait plombier ou serrurier Paris. On allait dans les dernières pages de Google, dans la 7e et la 8e page, et on appelait tous les annonceurs qui étaient mal placés. Bonjour, tu veux des campagnes Google, tu veux des campagnes à la main comme ça. À l'époque, LinkedIn, ça existait pas. Il y avait pas LinkedIn comme aujourd'hui. C'était un canal hyper différent. Je crois que je sais même pas si ça existait. Je vais te dire. Ou alors c'était le tout début, c'était Viadeo à l'époque. Je crois qu'il y avait pas LinkedIn. Donc il fallait appeler, il y avait pas, tu pouvais pas démarcher, les techniques de gross marketing, elles étaient encore très SEO et peu d'automatisation LinkedIn, beaucoup de mail marketing aussi. Mais on n'était pas fort dans ça. Donc nous si tu veux, on commençait à démarcher, mais je me rappelle que les 6 premiers mois, on réussissait très peu à signer du client en démarchage froid comme ça. Donc on a réussi à signer un client plutôt plus et le reste c'était que du bouche à oreille, un peu de réseau. Donc voilà, et en fait les techniques qui nous ont permis de gagner des premiers clients, il y en a plusieurs. La première, c'est les partenariats avec d'autres agences. On appelait des agences qui faisaient pas le même métier que nous, une agence de création de site web, et on lui dit, tiens, on fait des campagnes Google Ads, envoie-nous du client, on te commissionne. Et puis, on signait, même un client, on était déjà content, le partenariat était réussi. C'était un client de gagné qui venait pas de notre réseau, et un client content, il va te ramener 2-3 clients en cooptation. Donc, c'était déjà super. Et on a fait plein de partenariats comme ça. Et tous les mois, on pitchait à plein de nouvelles agences, nos services. C'est plus facile en B2B.
Bah effectivement. Puis j'écoutais ça récemment, tu le disais dans un entretien. Je crois que tu avais des marques quand même de renom. Et corrige-moi si je me trompe, vous avez travaillé avec Tinder, je crois bien. Vous faisiez leur placement média. J'imagine qu'il y a également d'autres marques que tu vas pouvoir partager avec l'audience aujourd'hui. Donc, je peux comprendre l'idée de peut-être appeler à froid des entreprises que tu vas trouver sur Google. Mais ces grosses entreprises-là que vous êtes allé chercher à l'époque avec Advisors, partenariat stratégique, bouche à oreille, comment ça s'est déroulé?
Bah ouais, alors justement c'est la suite, c'est que les gros clients tu les chopes pas comme ça. Tu peux en choper avec des partenariats avec des agences, ça peut tomber, mais souvent les agences qui font des partenariats avec toi, ce sont aussi des petites agences parce que elles ont des petits clients. Donc là du coup j'allais en venir. Comment on a fait pour signer des gros clients? Et c'est un peu un coup du sort. Pour te raconter l'histoire, il y a un événement en France qui s'appelle les Big Boss du e-commerce. C'est un très gros événement marketing en France où en fait pendant 3 jours tu vas à la montagne ou au ski avec des décideurs du e-commerce, il y a 200 personnes, 200 directeurs marketing. Et tu as des annonceurs, 50 annonceurs qui vont là-bas aussi. Et en fait, c'est la rencontre entre décideurs, marketing et agences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement de networking très cool, mais en vacances. On est à la plage, il y en a un en été, la summer et la winter en hiver, au ski. Et donc, c'est 3 jours de networking, mais un peu décomplexé, où tu te fais des copains. Et nous, comme on n'avait pas de réseau, ce qui était bien, c'est qu'on a pu rencontrer des très gros directeurs marketing en mode copain. Et du coup, c'est souvent plus facile de... Nous, comme on était jeunes, on était sympathiques, déconneurs, on payait les bouteilles, on sortait, machin. On dormait tard, on dormait même pas. Alors aujourd'hui, j'ai 2 enfants... Je te raconte pas, si je me couche à 4 heures du matin, tu me vois plus pendant 2 jours. Mais en tout cas, à l'époque, on était fêtard. Donc, ça a plu aussi parce qu'on était un peu dans un environnement un peu, high level et on amenait une fraîcheur. Donc, on s'est fait plein d'amis, comme ça, de gros décideurs du marketing. Et ça nous a permis de nous lancer, de nous faire un nom. Et c'est comme ça, en fait, Tinder, pour te raconter l'histoire, le directeur marketing, le gros marketeur qui a été recruté chez Tinder pour gérer l'Europe, il s'appelle Morad Adjaoud et c'est toujours un copain. Je l'ai rencontré dans le train à 8 heures du matin pour aller au ski. À la winter, et je me rappelle, il était 8 heures du matin, il avait une Heineken déjà à la main, une petite bière. Donc tu vois l'ambiance un peu décomplexée, et lui il gérait Tinder. Et il me parle, on s'entend super bien, on se retrouve après l'événement, et il me dit écoute, pour le moment j'ai que la France, mais si on est bon, on peut gérer l'Europe. Et puis on a été bon. Et comme Tinder faisait pas de campagne en Europe, bah on a récupéré l'Europe. Et un jour, on a récupéré les US, et on gérait 1 million d'euros de budget par mois. C'était monstrueux. 1 million d'euros de budget par mois, c'était notre plus gros client. En fait, on a lancé, ce qui était cool, c'est qu'on a lancé le compte Tinder sur Google Ads. On gérait tous les marchés. On gérait les pays nordiques, le Canada, la France, l'Italie, l'Espagne. Et chaque marché, on avait des stratégies différentes d'acquisition, des coûts par acquisition à respecter. Donc, c'était génial. Et on a signé à part ça énormément de clients. Alors, pas que via les big boss. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu signes des gros clients, notamment, et que tu te fais un nom sur des événements comme ça, bah après, t'es coopté, il y a d'autres clients qui viennent. Et le réseau fait que on parle de toi en bien, etc. C'est ça aussi qui nous a permis de gagner des clients. Et je dirais, les derniers points qui nous permettaient de gagner aussi des gros clients, c'est la communication sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand LinkedIn est apparu, tu vois, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à faire des inbound marketing et créer du contenu. Et moi, je me suis dit, putain, c'est simple. Je vais prendre mon téléphone. Je vais me filmer. Je vais raconter des trucs que je connais. Je vais dévoiler des conseils, et je vais publier des vidéos sur LinkedIn. Très naïvement. Et du coup, il y a une communauté qui a commencé à se construire derrière moi, qui suivait mes vidéos. Et puis, 5000 followers, 10 000. Et là, maintenant, 25 000 ou 26 000 followers sur LinkedIn. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, ça représente une grosse part de mon chiffre d'affaires. Et à l'époque, déjà, ça représentait 20 à 30%. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que, en fait, les clients, comme ils te voient sur les réseaux, ils disent, celui-là, il est expert, il partage du savoir, du conseil, et ils viennent à toi. Et donc, en créant du contenu, en le partageant à une audience, et en te faisant passer en tant qu'expert, puisque tu partages du contenu, sur une expertise donnée, eh ben, les clients, ils disent, OK, lui, il est bon, il partage des conseils, il m'a appris des trucs, et ils te voient une fois dans leur feed. 2 fois, 3 fois, 10 fois, à la fin, ils signent avec toi. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'ajoutais tous les CMO de grosses boîtes sur LinkedIn. Je faisais du contenu, ils me voyaient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la fin, ils me contactaient eux-mêmes. Je les ai pas démarchés. On avait une part du business qui venait comme ça, et d'ailleurs, aujourd'hui, Splasher, ma seconde boîte, une grosse partie de l'activité vient de LinkedIn également en termes d'acquisition client.
Wow, fascinant ce que tu dis. Donc, si je résume bien, ça serait de se positionner littéralement où est-ce que ces gens-là sont, autant au niveau physique qu'en ligne, parce que c'est un petit peu ce que tu dis, les gros événements, ces décideurs marketing vont être présents. Par la suite, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les derniers mois. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus en ligne, mais c'est comme ça que vous avez démarché vos gros comptes.
Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de stratégie spéciale, machin. C'est de la communication, on crée du contenu, on est visible, les gens nous voient, nous disent « Ok, ces mecs-là sont experts, on va les contacter », parce que des experts, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est intéressant en B2B, c'est ça que je veux dire, c'est que vous voulez créer du business aujourd'hui, vous êtes expert de votre activité, bah partagez-le. Et je vais te donner un exemple en B2C, par exemple. Un autre exemple qui est génial. Tu dois connaître Salt Bae, le mec qui fait des viandes.
Ouais, bah oui, bien sûr, avec tous les footballeurs, là.
Voilà, tu vois, ce mec-là, il a rien fait de fou. Ce mec, il a juste, à l'époque, sur Instagram, on l'a filmé, salé une viande de façon sympa, et il a été viral. Mais combien il y a de chefs dans le monde qui sont hyper sympas, qui font des cuisines fusion avec du feu, du machin, on le voit jamais. Il faut aller en restaurant pour les voir et on les voit jamais sur les réseaux. En fait, lui, la force qu'il a eue, c'est qu'il a juste montré. Alors certes, c'était sympa, mais il a juste montré ce qu'il savait faire. Et aujourd'hui, en B2B ou même en B2C, mais principalement en B2B, ça marche bien, c'est quand vous êtes expert, dites-le, partagez-le, créez du contenu. Et le fait de créer du contenu vous place en tant qu'expert. Même si vous n'êtes pas le plus grand expert de votre marché. Moi, par exemple, je fais du digital. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, Jérémy, t'es expert. » Mais je suis pas expert. Il y a des gens 1000 fois plus experts que moi et 1000 fois plus techniques que moi. Il y a des mecs qui font des campagnes des plans de tagage sur Google Tag Manager, qui vont gérer des campagnes automatisées avec des algorithmes, des scripts JavaScript pour optimiser leur campagne Google. Il y a des mecs beaucoup plus techniques que moi. Mais en fait, ces gens-là ne le disent pas. La seule différence entre eux et moi, c'est que moi, je prends la parole et je suis invité dans un média comme le tien. Bah, je viens partager ce que je connais, tu vois. Et en fait, ça suffit. Et si tu veux, aujourd'hui, ça permet de signer beaucoup de clients puisque comme il y a peu de gens qui prennent la parole, et ben, on a un gros écho. Et au final, les annonceurs, ils ont peu de choix. Ils disent, ah oui, lui, il est expert, il parle de ce sujet, donc je vais passer par lui. Et ça, c'est un sujet très, très, très important. Donc, ce que je recommande lorsque vous montez une entreprise, c'est de vous dire comment je vais créer du contenu, comment je vais partager mon savoir et mon expertise. Et ça ramènera, c'est sûr, à coup sûr des clients. Après, il y a un dernier truc que j'aimerais dire, c'est qu'il faut bien choisir la plateforme aussi. Parce que si tu crées du contenu et qu'il est jamais vu, ça sert à rien. Donc, si tu crées du contenu et que tu le publies sur une plateforme qui viralise pas, où il y a peu de viralité, exemple sur Facebook, il faut mettre du budget média, sinon t'es invisible. Par contre, si tu la publies sur la bonne plateforme, LinkedIn par exemple, tu vas avoir plus de chances de viraliser si tu publies sur ton compte personnel. Si tu publies sur ton compte entreprise, tu auras moins de chances de viraliser. Si tu publies sur TikTok aujourd'hui, qui est un super canal où le reach organique est fort, tu peux viraliser sans budget. Sur Reels, Instagram ou sur Short de YouTube. Il faut trouver la plateforme aussi. Tu crées le contenu, mais il faut bien le distribuer. Sinon, ça marche pas.
Intéressant ce que tu dis. J'aimerais revenir, tu l'as mentionné plus tôt, la vente de Advisors à Quamplify, si je me trompe pas. J'aimerais que tu me parles un petit peu du processus. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Donc, bien entendu, vous prenez des parts de marché, vous avez des plus gros comptes. Est-ce que c'est eux, ultimement, qui sont venus à vous pour vous et qui vous ont fait une offre d'achat? Est-ce que c'est vous qui avez entamé les discussions? Comment ça s'est déroulé, ça?
Yes, bah écoute, c'est assez simple. En fait, nous, si tu veux, on s'est dit à un moment donné, ok, on devient gros, on commence à faire pas mal de chiffre d'affaires, on commence à avoir des gros clients. On a deux possibilités. Soit on vend notre boîte, soit on rachète une autre boîte pour grossir. Et on voulait racheter une boîte de SEO, donc de référencement naturel, pour pouvoir compléter notre offre parce qu'on faisait que du média payant. Et du coup, on a été voir un cabinet de conseil, un cabinet de une banque d'affaires qui avait vendu un concurrent à nous, qui s'appelle ICAP Partner, qui est connu en France, qui a fait pas mal de deals. Et du coup, on a été le voir, on lui a dit, écoute, le patron s'appelle Numa, on est ouvert, on aimerait racheter une boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, écoutez les gars, oui, vous pouvez racheter une boîte, mais c'est risqué, vous l'avez jamais fait, vous êtes encore petit, vous êtes pas assez gros pour faire de la croissance externe comme ça. Je vous conseille de vendre. Vous avez une belle boîte pour vendre, ça peut être intéressant. Et du coup, nous, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va tenter l'expérience. Et du coup, lui, en fait, a créé un pitch deck, a commencé à envoyer à son réseau. En anonyme, bien sûr, sans dévoiler le nom de la boîte. Il y a des clients, il y a des potentiels racheteurs qui étaient intéressés. Et du coup, on a fait une shortlist avec 4-5. Et on les a rencontrés. Et après, nous, simplement, on va leur pitcher notre boîte. On leur explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Et on a eu des offres. Sur 5 rencontres, on a eu deux offres fermes, deux boîtes qui étaient intéressées à la fin, qui se sont, je vais pas dire battues, mais on voulait vraiment. Et on a choisi Quamplify. On avait aussi une offre de High Prospect. C'est le groupe d'Elfu et Agis.
Bien sûr, bien sûr.
Sauf que ce qui était dérangeant, c'est que ils nous engageaient sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on devait rester chez eux pendant 5 ans. Et ça nous faisait peur parce que 5 ans, c'est long pour un entrepreneur.
Ah ben c'est sûr. Jérémy, ce qui est intéressant, il y a eu sur le podcast Guillaume Bouchard qui est venu. Guillaume Bouchard avait une agence qui s'appelait NVI à l'époque, sensiblement comme la tienne, mais davantage orientée SEO. Et il a vendu à High Prospect et il nous a parlé dans le podcast de son earn-out qui a duré littéralement 5 ans. Donc, on dirait que c'est un modèle fait maison de High Prospect et d'Ensu Aegis. On achète une boîte, mais on va la payer un petit peu avec tous les profits qui vont se faire sur le earn-out de 5 ans. C'est un petit peu ce qui se déroule, là.
Exactement. En fait, ils nous ont payé, ils nous proposaient de payer un fixe dès le départ et un earn-out sur 5 ans en fonction des objectifs. Alors ça ne nous faisait pas peur, mais le problème, c'était les 5 ans. C'est-à-dire que sur 5 ans, tu as du mal à te projeter en tant qu'entrepreneur sur ton business, ton activité.
Bien sûr.
Tu vas être intégré à un groupe qui est assez gros. Donc, en fait, si tu veux, t'as du mal à imaginer la suite. Donc, c'est vrai que nous, on a préféré partir avec une boîte qui est Quamplify, qui est une boîte plus à taille humaine. Il y avait 200 employés versus 10 000 ou 20 000 pour Dentsu Aegis. Donc, ça n'a rien à voir. Quamplify était coté et on a eu un bon feeling avec le fondateur. Ça s'est bien passé. Il nous proposait une offre qui était moins élevée aussi.
Ah, ouais.
Moins élevée. Mais on a préféré aller vers cette offre parce qu'on n'était pas engagé. On était engagé que 6 mois. Et finalement, on est resté 2 ans chez lui quand même.
Quand même.
On est resté 2 ans parce qu'on se plaisait bien. C'était un bon moment pour nous. On l'a aidé à développer la boîte. Et puis, à un moment donné, on a quitté le bébé parce qu'on avait envie de monter une autre aventure et de se relancer un peu dans le business. Parce qu'effectivement, quand t'es entrepreneur, c'est vrai que, à des moments, soit t'arrives dans la boîte dans laquelle t'es racheté à être motivé par le racheteur et qui va te motiver, qui va te fixer des objectifs avec qui tu vas pouvoir te développer sur la durée. Et c'est vrai que Quantify, on ne s'est pas entendu sur la vision future du projet. Et donc, on a failli rester parce que le projet, au départ, nous plaisait bien. Et finalement, on ne s'est pas entendu. Et donc, on n'est pas resté, mais on est resté en très bon terme. Et d'ailleurs, je salue Cédric, que j'adore. Hein, c'est quelqu'un qui est génial, le fondateur de Quantify, avec qui j'ai très bon terme.
Intéressant ce que tu dis. Et puis, ce qui est fascinant, puis je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc, vous construisez, vous vendez, et là, par la suite, il y a des questions qui se posent, hein, parce que là, vous êtes un groupe, j'imagine, quelques associés ensemble, vous posez des questions sur quel va être votre prochain projet et vous décidez de vous relancer dans pas la même chose, je pense pas que c'est le bon terme à utiliser, mais quelque chose qui est similaire, donc la création de contenu cette fois-ci, vous appelez ça, vous, du snackable content sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui s'est déroulé un petit peu dans vos têtes à ce moment-là? Ça a été quoi le déclic de se dire, tu sais quoi, on était dans le média, maintenant on s'en va dans la création?
Yes, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, hyper simple, on avait envie de se remettre en scène. On avait envie de relancer une activité. Et nous, on s'est dit, en fait, si tu veux, quand t'es entrepreneur, je pense que souvent, tu reproduis un schéma que tu sais faire. On s'est dit, on a remonté une activité, une agence, une boîte de service. On va remonter une boîte de service puisque c'est ce qu'on sait faire. Et on le fait bien. Donc, comme ça, on le fait bien, on va essayer de le reproduire. Et on s'est pas dit, on a lancé une boîte B2C ou un logiciel SaaS parce qu'il y a de la technique. On s'est dit non. On a des compétences. Ces compétences, on les connaît, on les maîtrise, on connaît notre niveau. Mais on va faire ce qu'on sait faire. Et en fait, effectivement, visiblement, on a remonté une boîte de service. Alors, pourquoi cette boîte et pourquoi une boîte de création de contenu? Parce que si tu veux, on s'est rendu compte à l'époque que Google est venu nous voir, Facebook est venu nous voir il y a 3-4 ans et nous a dit, écoutez, les gars, en 2021, il y aura 80% du trafic Internet qui sera vidéo. Alors, nous, on lui a dit, what? C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, nos clients, ils dépensent tout leur budget sur le search. 90% de leur budget. La vidéo, c'est pour de la notoriété. Et ils ont dit, les gars, 80% du trafic Internet sera vidéo. Donc, il faut absolument mettre vos clients sur des vidéos. Donc, nous, à l'époque, on a testé de mettre nos clients sur des formats vidéo. Sauf que, dès qu'ils lançaient des campagnes, ils prenaient la publicité télé, ils la mettaient sur le digital, et ça faisait zéro résultat. Ou alors, ils passaient par des agences créatives qui comprenaient rien aux campagnes médias online. Donc, en fait, il y avait des vidéos qui marchaient pas. Et ça faisait pas de performance. Et en plus, les outils de tracking et de mesure, ils étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on mesurait pas les conversions post-view, post-lecture. Ah, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Ce qui fait que l'annonceur, il pouvait pas se dire, j'ai fait une vidéo, ça a marché. Il savait pas. Donc, en fait, si tu veux, nous, on s'est dit, il y a un vrai marché. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'annonceur, il a besoin de produire des vidéos, mais qu'ils soient adaptées aux campagnes médias. Donc, en fait, on a eu un client chez Advisors qui s'appelait Hug Avenue, qui est un client, qui est un site de rencontre, dating, qui est un bon client à nous. On lui a dit, écoute, Anthony, c'est le patron de la boîte, on lui a dit, on va te produire des vidéos pour toi et on va les tester dans les campagnes Facebook Ads. Et on a produit pour lui non pas une vidéo, mais 15. Donc, on a appelé un réalisateur, on lui a dit, écoute, nous, on veut faire des vidéos. On a un budget de 500 euros par vidéo. Il faut que tu nous produises 15 vidéos. Il a dit, OK, je me débrouille. Il a écrit les scénarios et nous, on l'a aidé parce que nous, on connaît l'expertise média. Donc, on sait où se trouvent les call to action. On sait quelle est la durée requise. Donc, on l'a guidé dans la rédaction et on a amené notre expertise média adaptée les créas aux médias. Ce qui n'était pas fait. Parce qu'en fait, en France, à l'époque, tu faisais une créa, tu la poussais et tu regardais pas. Nous, on s'est dit, on fait une créa qui est d'abord adaptée aux médias. Où est-ce qu'elle va diffuser? Est-ce qu'elle va diffuser sur YouTube True for Action? Est-ce qu'elle va diffuser sur Facebook Feed? Est-ce qu'elle va diffuser en story? En story, par exemple, c'est écouter avec le son. C'est 15 secondes. C'est vertical. Sur le feed, c'est un format carré ou 4/5. C'est sous-titré parce que c'est écouté sans le son. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus du native ads. Alors que, en story, c'est plutôt d'in-stream, c'est plutôt catchy. Donc, en fait, nous, comme on connaît ces canaux, on a fait des vidéos adaptées aux médias. Et une fois qu'on a mis les vidéos, là, les campagnes du client, elles ont explosé. Quand je dis qu'elles ont explosé, c'est-à-dire que le coût par acquisition, il est resté stable et on a fait une augmentation de volume de x4. Ça veut dire que le client, il était limité dans ses dépenses, il n'arrivait pas à dépenser plus. Et on a été chercher 4 fois plus de volume d'installation et de paiement. Pendant 3-4 mois, ça a duré. Et au bout de 3 mois, les créas, elles commençaient à s'effriter. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai une croyance, c'est que la créa, elle est beaucoup, on la consomme comme du snack content. Elle est beaucoup plus éphémère. Les gens, ils se lassent beaucoup plus vite. Donc il en faut 15 tous les 3 mois. Il en faut 5 par mois. Faut que je change. Et effectivement, on en a refait 15. Et là, les 3 mois suivants, ça est reparti. Et en fait, on a été invité chez Facebook, qui avait fait un business case avec nous. Ils avaient invité 120 clients. Ils avaient dit, regardez, les mecs, ils ont testé des vidéos. C'était le tout début. On était en France, on était presque les premiers à tester ça dans les campagnes perf. Et le truc, il avait cartonné. Et du coup, on s'est dit, alors on a une croyance, c'est que l'annonceur, il veut des vidéos. mais il peut pas payer trop cher parce que comme il en a besoin de beaucoup, parce que la vidéo elle s'use trop vite, il peut plus payer 10 000 euros sa vidéo ou 20 000 euros avec des acteurs. Faut qu'il la paye 500 balles, 1000 balles, 1500 balles, 2000 euros grand maximum. Faut qu'il la paye pas cher. Donc nous, on s'est dit, il y a un vrai enjeu. Il faut qu'on arrive à produire des vidéos pour les annonceurs à un prix très agressif et en quantité. Et surtout adapté aux campagnes médias. Et donc on s'est dit, il y a un marché, on a une croyance, ça a marché sur un client, on est fou, on y va, et on va essayer d'évangéliser le marché français. Et c'est comme ça qu'on a lancé Splasher, très naïvement aussi. Et puis, un client, deux clients, trois clients, 10 clients. Et maintenant, aujourd'hui, on a eu plus de 350 clients sur Splasher. Et par rapport à Advisors, ma première boîte, on a des clients encore plus gros. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas. On a, par exemple, les vaccins de Pfizer avec qui on travaille. Tu vois, pour la communication sur des vaccins. On bosse avec Galerie Lafayette, Sephora, La Redoute. On bosse avec Tinder encore. On a bossé avec McDonald's sur TikTok. On a signé TikTok en client. TikTok, ils ont fait des vidéos avec nous pour leur acquisition média. Sur YouTube, sur Instagram, sur Snap, on a fait des tournages pour TikTok. Donc, en fait, c'est énorme. On a bossé aussi pour Snapchat. On a fait des vidéos pour leurs clients Winamax. On a bossé avec. Donc, si tu veux, ce qui est monstrueux, c'est que on a trouvé un marché, on a eu une croyance, et puis on a signé du client et ça a été beaucoup plus vite parce que là, on a résolu une vraie problématique assez rapidement. Alors que Advisor, c'est la différence. T'avais déjà un marché qui était assez gros. T'avais beaucoup de concurrents.
Juste un petit bémol ici, c'est fascinant ce que tu viens de dire. Donc, pour les gens qui nous écoutent, signer TikTok et faire des vidéos quasiment sur la même plateforme par la suite, c'est assez fascinant tout ça. Puis, félicitations, mais je reviens un peu à mon point. Le développement d'affaires cette fois-ci pour ces clients d'envergure-là, encore une fois, la même formule gagnante que tu avais utilisée chez Advisors?
Alors là, différent parce qu'on est tombé en plein Covid. On a commencé il y a deux ans. Donc, c'est compliqué déjà. Alors, quand tu démarres, la stratégie qu'on a utilisée cette fois-ci, il n'y avait pas d'événement physique. Où c'était le début, donc on n'en a pas fait vraiment. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la communication sur les réseaux, uniquement sur LinkedIn. On a créé du contenu un maximum. Et comme là, on est une boîte de création de contenu, c'est beaucoup plus facile pour nous de créer du contenu vidéo. Et donc, en fait, on a créé plein de snack content vidéo, énormément de contenu vidéo créatif, sympa dans l'agence pour promouvoir notre activité qu'on a diffusée sur LinkedIn et sur les réseaux. Et du coup, ça nous a amené énormément de leads parce que les clients, c'était un super time to market. C'était le bon moment. Ils voulaient des vidéos. Ils avaient entendu parler de Snack Content. Ils voulaient performer avec la vidéo. On leur a dit, on est une agence. On fait ça. On est spécialisé. En plus, on a monté une boîte avant. On connaît ça par cœur. Signez avec nous. Et en fait, LinkedIn, ça a été un très gros canal d'acquisition. Et on a réussi à monter. Et aujourd'hui, je l'avais dit sur un autre podcast, on va arriver quand même à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Ce qui est quand même énorme sur la création de contenu. On a signé 350 clients. Donc c'est gros. C'est énorme. Et ça, c'est principalement avec l'acquisition sur LinkedIn. Pas que parce que on a aussi
des références,
des références et surtout des anciens clients parce qu'il y a des clients qui nous connaissaient. On n'est pas parti de zéro là. Cette fois-ci, on avait du réseau. Donc forcément, on a appelé nos anciens clients. Tiens, tu veux démarrer avec moi? Et après, un client content, on fait 2, 3, 4, 5, 10. Et surtout, comme il y a très peu d'offres sur le marché, en tout cas en France, ça va vite. Ça va beaucoup plus vite.
Waouh, 7 millions en 2 ans, c'est allé vite là, tout seul. Impressionnant.
C'est allé très vite. Là, c'est allé très très vite. Et la première année, déjà, on faisait 3 millions d'euros de chiffres. Ça a été assez vite et on a exécuté hyper rapidement. On a recruté et là on est presque 40 personnes et chaque mois on recrute parce que il y a beaucoup de demandes de création de contenu tous les mois.
Intéressant. Puis je suis curieux. Maintenant, t'as cette organisation là, t'as géré du média dans le passé. Ça t'est pas venu en tête de mixer les deux ensemble puis de gérer le média avec cette création là?
Si, ça m'est venu en tête, mais le problème c'est que aujourd'hui les agences médias sont mes clients. C'est-à-dire qu'il y a des agences médias. Alors, mes clients sont principalement, je suis en direct avec les clients, mais quand même, c'est une relation tripartite avec l'agence. Et aujourd'hui, je parle avec l'agence et souvent l'agence, quand elle est contente, elle va des fois me recommander à des clients. Si demain, je me mets à vendre aussi du média, je vais avoir une partie de mon business qui va être coupée. Donc, je n'ai pas d'intérêt puisque aujourd'hui, ça doit représenter peut-être 15-20% de mon chiffre, ce qui n'est pas négligeable. Je peux pas aujourd'hui me dire, c'est-à-dire que c'est sûr que peut-être que je pourrais aller chercher beaucoup plus, mais j'ai une relation avec les agences qui est très bonne, on s'entend bien. Et je pense que de la même manière que j'ai monté Advisors où tu as des pure players, des mecs qui sont bons sur une activité, nous on est bons sur la création de contenu. Si on se met demain à faire du média, on sera peut-être moins bon qu'un partenaire parce que c'est deux boîtes différentes, c'est deux structures, c'est deux métiers. Donc on préfère rester focalisé sur ce qu'on sait bien faire, avoir des bons partenaires. À côté de ça, il y a aussi un enjeu, c'est qu'on est partenaire créatif monde de TikTok. On est 6 agences dans le monde à être partenaire créatif et TikTok nous envoie des clients. Tu vois, donc d'ailleurs... Ce mois-ci, on a signé Bumble. Je ne sais pas si tu connais Bumble, l'application de dating. On vient de signer, c'est TikTok qui nous a envoyé. On a tous les mois des clients qui sont envoyés via TikTok. Donc, c'est un gros partenaire. Et ils nous envoient du client uniquement parce qu'on fait de la créa. Si on était agence média, ils n'auraient pas le droit de le faire. parce qu'en fait, on est jugé parti. Et du coup, ils ont plein d'agences médias qui achètent du média chez eux. Et on serait client. Alors que là, on n'est pas client TikTok. On est un partenaire qui aide à créer du contenu pour que demain, les clients dépensent en médias. Et donc, en fait, ils ont le droit de nous envoyer du business. Ils n'auraient pas le droit si on faisait du média. Donc ça, c'est un point important. Et on est partenaire TikTok. On est partenaire aussi Facebook. Facebook, on a un peu moins... Enfin, c'est pas une moins bonne relation, mais c'est juste que Facebook, on est arrivé un peu après la bataille parce qu'il y a déjà des grosses agences créatives qui sont bien maquées avec Facebook. Donc, on est devenu partenaire. Mais voilà, nous, si tu veux, le plus gros partenaire aujourd'hui, c'est TikTok. C'est un peu Snapchat aussi qui nous envoie pas mal de clients et qui ont travaillé bien. Donc, c'est ces nouvelles plateformes qui se sont lancées. Et nous, comme on s'est lancé un peu dans les mêmes périodes, bah, on a tout de suite, très rapidement, essayé de les contacter pour bosser avec elles.
Wow. Félicitations pour cette croissance-là. C'est assez exceptionnel, Jérémy. Puis, j'ai cru voir, peut-être à temps perdu, peut-être que tu mets plus de temps là-dessus, ça va être à toi de me répondre. T'es également investisseur dans certaines boîtes, donc je les nomme pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Sparkle, qui a l'air d'être une agence ici très, très spécialisée en TikTok. Keyware, puis également Digifood. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours d'investisseur? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente beaucoup de ton temps? Est-ce que c'est de l'argent que tu as mis là-dedans? Est-ce que c'est davantage de l'expertise? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Bien sûr, bah écoute, moi je suis pas un très bon investisseur parce que j'ai pas le temps à fond de me concentrer sur l'investissement, que ce soit en immobilier d'ailleurs, où je fais peu d'investissement immobilier ou de placement, parce que je reste un entrepreneur et je pense que entrepreneur investisseur, c'est deux métiers différents. Investisseur, c'est un métier qui s'apprend et tu peux être un bon entrepreneur mais un très mauvais investisseur. Je sais pas si je suis mauvais investisseur, mais comme j'ai jamais expérimenté, je me suis jamais renseigné et j'ai jamais appris, il faudrait que je me pose à un moment donné et que j'investisse, ce que je ne fais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire. Donc écoute, je fais très peu d'investissement et quand j'en fais, j'essaye d'aider, c'est-à-dire que j'apporte mon expertise d'entrepreneur. Donc je fais avec eux les boîtes, je les aide. Et par exemple, alors Sparkle, c'est un truc un peu différent parce que Sparkle, c'est une agence spécialisée sur TikTok. Ils créent des contenus pour TikTok et ils accompagnent les marques à se lancer sur TikTok. Ils font aussi des campagnes d'influence. Et en fait, on les a intégrés à Splasher. On les a rachetés et intégrés. Donc en fait, Sparkle, ça fait partie de Splasher aujourd'hui. C'est une offre commerciale, mais qui est dans Splasher. C'est pas une boîte à part. En fait, Sparkle, la boîte n'existe pas. C'est un nom commercial. C'est la même boîte, en fait. Donc c'est juste une offre dédiée à TikTok. Sparkle, parce que c'est un canal un peu différent et qui intéresse les marques aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie Sparkle. Hormis ça, en particulier, moi-même, j'investis un peu dans des boîtes. J'ai investi, tu l'as dit, dans Digifood, dans Keyware, mais également dans une autre boîte que tu n'as pas citée qui s'appelle Casper. Alors ces trois boîtes-là, elles marchent bien, mais Casper, c'est une boîte qui marche super bien aussi, qui te permet en fait de trouver le contact de n'importe qui sur les réseaux en naviguant sur LinkedIn. Et en fait, ces boîtes-là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je les ai aidés beaucoup en communication. C'est-à-dire que, bah, comme je sais communiquer, je les ai aidés. Je leur ai dit, il faut créer du contenu, il faut communiquer sur LinkedIn, il faut faire. Donc, je les ai accompagnés, si tu veux, pour qu'elles aient une stratégie de développement. Mais encore une fois, je suis pas très bon investisseur. Je suis plutôt accompagnant. Je suis entrepreneur, donc j'entreprends avec eux et je les aide à se lancer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais pas beaucoup d'investissements, parce que tu as compris que si je fais 10 investissements, je peux pas être 10 fois entrepreneur dans ces boîtes-là. Donc en fait, je les aide à une petite partie de mon temps, mais je sais pas investir. Voilà, je suis pas bon investisseur.
Intéressant. Puis avant de te poser des questions personnelles, Jérémy, à quoi ressemble l'avenir de Splasher? Est-ce que vous voulez peut-être éventuellement faire un peu la même suite qu'Advisory et de vendre l'organisation à un plus gros joueur? Est-ce que vous voulez la grossir encore pendant quelques années? Ça ressemble à quoi?
Écoute, nous, si tu veux, Splasher, c'est une boîte qui est un peu une deuxième entreprise où là, on a beaucoup moins la pression, puisque lorsque tu vends une première boîte, bah, tu vas gagner un peu de sous, donc t'es content. Là, il y a moins la pression d'argent, donc on n'est pas du tout aussi pressé. L'idée, c'est de se dire, bah, on va construire. Et potentiellement, si demain tu me dis, écoute, dans 10 ans, t'es encore chez Splasher, ça pourrait ne pas me choquer, puisque dans 10 ans, je peux me voir évoluer, faire peut-être de la croissance externe, donc de racheter d'autres boîtes, ce que je n'ai jamais fait. Alors, je l'ai fait une fois avec Sparkle, puisqu'on l'a intégré et ça a super bien marché. Mais peut-être qu'on va réitérer et essayer de développer d'autres choses. Donc, je me vois peut-être plus long terme sur cette boîte-là. Et en termes de développement, je peux pas te dire à comment va évoluer le chiffre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on veut se développer encore plus. On pense que le marché de la vidéo, il est assez énorme et qu'il y a pas mal de clients à aller chercher. On essaye aussi peut-être de lancer d'autres nouveaux produits, notamment le live shopping, qui est un produit que nos clients nous demandent beaucoup. Donc en fait, tu vois, en fait, l'idée de Splasher et le développement, ce sera par des nouveaux produits potentiellement, parce qu'on a une grosse base de clients aujourd'hui. Et ces clients-là sont demandeurs d'influence, de création de contenu vidéo, de live shopping et peut-être d'autres sujets demain qui seront en rapport avec la créa. Donc voilà, et on aimerait rester sur ces thématiques-là. Est-ce qu'on va se lancer à l'international? Écoute, c'est pas dans l'immédiat, mais dans 2 ans, 3 ans, ça pourrait être un sujet, tu vois. Et peut-être que demain, on se verra au Canada, à Montréal, et on essaiera ensemble de vendre médias et créa.
Ah, effectivement, ça c'est ça peut être bien là, t'es toujours bienvenu à Montréal hein. Puis je suis curieux avant de te laisser filer, j'aime toujours le savoir un peu avec mes invités. Est-ce que t'aimes la lecture, Jérémy? Est-ce qu'il y a peut-être des livres d'affaires qui ont marqué un petit peu ton imaginaire dans les dernières années?
Alors, je vais pas te mentir, je suis pas un gros lecteur. Par contre, j'ai lu. Alors moi je lis mais pas de livres, c'est-à-dire je lis beaucoup sur le digital. Je m'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies. Donc je suis un grand fan de blockchain et de crypto, ça fait 7 ans. J'ai même d'ailleurs monté un média à une époque, un média crypto, donc parce que je suis fan de crypto. Donc je lis effectivement, mais pas de livre. Le seul livre, si tu veux, qui m'a un peu marqué, c'est le livre de Tony Hayes, qui est le fondateur de Zappos.
Bien sûr.
Son livre s'appelle l'entreprise du bonheur. Et il est décédé d'ailleurs, je crois ce mec-là. Et je vais te dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a marqué dans son livre. C'est un truc complètement anecdotique, mais moi qui m'a marqué, c'est tout con, hein, mais en fait, si tu veux, Tony Hayes, lui, il disait dans la vie d'un entrepreneur, t'as des coups durs et t'en as tout le temps parce que t'enchaînes des problèmes et souvent tu te couches tard et tu ressasses tes problèmes, tu trouves des solutions et tout. Et t'as besoin d'avoir un compagnon. T'as besoin d'avoir quelque chose qui va t'aérer l'esprit, une drogue qui va te permettre de décompresser. Et c'est un truc dont t'es addict, mais c'est ton compagnon, il est toujours là. Il va pas te juger. Et lui, c'était le Red Bull, son compagnon. Et en fait, moi, je me suis revu en lui parce que moi, je suis un gros consommateur de Coca Zéro. Tu vois, je bois toujours du Coca. Il faut qu'il soit très frais. S'il est pas frais, tu vois, là, il est super frais. S'il est pas frais, je le bois pas. Et en fait, j'ai des cadavres de Coca Zéro sur ma table et j'en bois. Alors, c'est anecdotique, hein, mais je me suis revu un peu en lui. Et comme c'est un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup d'échecs, qui a fait beaucoup de choses, qui a failli tomber dans la faillite, qui a innové, j'ai adoré son histoire. Et une dernière anecdote sur lui que je trouve très cool, c'est surtout l'audace. C'est-à-dire qu'à l'époque, il s'est dit quand même, il y a 20 ans, je vais vendre des chaussures en ligne.
Bien sûr.
Alors que c'était fou. On se disait pas que les gens voulaient essayer les chaussures. Mais lui, il s'est dit, je vais en vendre. Et comment il a fait? Il a mis un site en ligne. Il a vendu des chaussures. Et les chaussures, il allait les acheter dans le magasin en bas de chez lui. Il les livrait sans marge. C'est-à-dire qu'il n'était pas rentable. Donc déjà, il avait compris un peu le mode lean startup. Je teste mon produit. Même si je suis pas rentable, je vois, je crée un peu d'activité. Et je trouvais ça très intéressant. Mais j'en ai lu d'autres, des livres. Et j'aime bien lire les biographies d'entrepreneurs. J'ai lu celle de Steve Jobs, j'ai lu celle de Jeff Bezos Amazon aussi, sur le service client, peut-être je raconte une anecdote sur ça aussi, qui m'avait marqué sur le livre de Bezos. C'était qu'une fois, en fait, Jeff Bezos était à une conférence et il avait parlé du service client d'Amazon, comme quoi c'était le meilleur service client au monde et que le service client était au centre d'Amazon. C'était la priorité d'Amazon. Et du coup, il y a une dame, il était 22h et elle a dit, bah, écoutez, est-ce que, on va voir si le service client d'Amazon, c'est le meilleur du monde, on va le tester. Et elle a appelé et elle l'a appelé pour commander une pizza. Alors qu'à l'époque, sur Amazon, on n'achetait que des livres, et quelques produits high-tech. On n'achetait pas de pizza. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si on peut acheter des pizzas à part sur Prime, mais elle a commandé une pizza. Et en fait, le gars au téléphone s'est pas démonté. Il a dit, attendez, madame, je vous mets en pause et tout. Il a fait patienter 10 minutes et au bout de 10 minutes, il a dit, OK, alors moi, je vais pas vous facturer, mais je vous ai fait commander une pizza. Elle va arriver chez vous. Donnez-moi votre adresse. Et au final, c'était tout con. C'est comment tu rends un client heureux? Et en fait, ils ont vécu tellement une super expérience, ce client-là, même si c'est une fausse expérience. Il avait le service client au centre de tout. Et moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois aussi, je m'inspirais de ça, c'est de me dire comment tu fais vivre une super expérience à ton client, qu'à la fin, lorsqu'il a fini, il se dit, OK, c'est génial, j'ai tellement kiffé que je veux revenir et je vais en parler à tout le monde autour de moi parce que j'ai adoré, c'était exceptionnel. Et c'est ça, c'est comment tu vas surprendre ton client.
Ah, exact. Non, je suis content que tu amènes ce point-là. Dans le dernier podcast d'Hypercroissance, j'ai fait une critique du livre de Amazon Unbound que je viens de terminer sur l'expansion totalement fascinante qu'Amazon a vécu de 2013 à 2021 parce que tous les gros coups d'Amazon sont apparus dans les 5-7 dernières années aux yeux du public. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les gros vecteurs de profitabilité d'Amazon qui sont Prime, AWS, c'est des entreprises qui ont été lancées au début des années 2000. Ça l'a pris, les gens pensent que c'est des overnight success, mais c'est des entreprises qui ont pris 10, 15, 17 ans à arriver à cette maturité-là. Et c'est ça un peu la différence de Jeff Bezos comparativement à d'autres entrepreneurs. C'est que certains entrepreneurs, des fois, vont avoir une vision long terme, mais là, pour eux, une vision long terme, c'est 2-3 ans. Jeff Bezos est prêt à prendre un produit qu'il pense qu'il peut être révélateur pour le grand public et de lui donner 10 ans. Et d'accepter que pendant 10 ans, ben, il va pas faire de sous, mais il est tellement convaincu que le client, parce que comme tu l'as dit, c'est ça, hein, lui, c'est tout est autour du client, va aimer ce produit-là, il est prêt à mettre cet argent, ce temps-là, ce capital-là, autour d'une certaine innovation. Bref, le livre est totalement fascinant, l'histoire d'Amazon, le processus, le modus operandi d'Amazon est totalement fascinant.
Génial, ben écoute, je vais regarder ça, ça m'intéresse.
Dernière question, as-tu des routines un peu, toi, avant de travailler ou pendant le travail?
Ma routine, elle est simple. Hein. Je descends à l'épicerie en bas, j'achète un Coca Zéro. Et une fois que c'est fait, je me pose sur mon ordinateur et j'ouvre mes mails, tout simplement.
Je comprends. Fait que pas tellement de routine dans ton travail. Tu vois un petit peu de comment que ça se déroule avec les demandes qui vont entrer.
Exactement. Alors après, j'ai des calls qui sont prévus avec mes clients. Mais souvent, ce que je fais, c'est que moi, je suis quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Des fois, ça m'aide beaucoup, mais je suis un peu désordonné. C'est-à-dire que dans mon travail, j'ai bien évidemment des calls avec des clients et ça, c'est très organisé parce que la gestion client est très importante pour moi. Mais mon boulot du quotidien, ce que je vais faire demain, bah, il peut me prendre l'envie de me dire, OK, je vais créer une vidéo et cette vidéo, on va la partager sur LinkedIn et elle va cartonner parce que je vais avoir une idée. Ça va me venir comme ça. Et j'aime pas arriver au bureau et me dire, OK, je vais bosser sur ça, ça et ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont des to-do, qui arrivent à s'organiser, ils sont très forts. Moi, j'ai pas vraiment de to-do. Par contre, quand je me dis je vais faire un truc, je le fais bien et vite. Mais souvent, j'ai du mal à me focaliser sur quelque chose. Donc c'est ça mon enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à bien me focaliser, à bien mieux m'organiser. Voilà.
Je pense que tu as quand même fait un bon travail jusqu'à maintenant en vendant une boîte à un géant comme Complify.
J'ai un bon associé aussi, attention. J'ai un associé qui lui est très organisé, okay. Alors qui a peut-être un peu moins d'idées que moi, et moi j'amène les idées et cette créativité qui fait bouger la boîte. Mais lui, il amène cette stabilité quand même, et c'est important dans le business d'avoir un bon associé. Alors j'ai pas qu'un associé, j'en ai plusieurs parce qu'on est 5 associés dans Splasher, mais il y en a un qui m'a suivi depuis Advisors, qui est un peu mon binôme et qui est très organisé dans sa façon de travailler, qui me correspond.
Intéressant. Ben Jérémy, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça a été totalement exceptionnel comme conversation pour les différentes entreprises que tu as avec tes associés, bien entendu, construites, vendues, relancées par la suite, avoir une croissance à cette vitesse-là. De toutes mes félicitations ici. Et si les gens veulent en apprendre un petit peu plus, peut-être tu disais que vous aviez des offres d'emploi, on peut trouver ça sur votre site web peut-être, j'imagine?
Yes, alors l'idéal, l'endroit où on est le plus actif, c'est plutôt LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, on communique beaucoup, parce que c'est un gros canal d'acquisition pour nous. Donc, ils peuvent taper Jérémy Bendayan sur LinkedIn et me trouver assez facilement, ou Splasher. Et en fait, on communique toutes nos offres sur ce canal-là. Moi, j'essaie de communiquer chaque semaine sur LinkedIn pour partager des astuces, des conseils, nos offres d'emploi. Et bien évidemment, sur le site, ils peuvent connaître un peu plus nos offres de création de contenu. La création de contenu vidéo, on fait des contenus acting et des contenus motion design. Donc, des contenus tournés avec des comédiens, des contenus motion, du remixing, du remontage. Donc, plein de choses comme ça pour faire des vidéos qui s'adaptent vraiment aux campagnes médias. Donc, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site ou me contacter par LinkedIn. Avec plaisir, je pourrais échanger avec eux.
Merveilleux, Jérémy. Ben, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Jérémy a été un invité excessivement intéressant aujourd'hui pour le podcast et je ne sais pas pour vous, mais j'ai personnellement été très impressionné par la croissance qu'il a été capable de faire avec 2 agences différentes à quelques années d'écart. Chapeau Jérémy, c'est très inspirant de te voir aller. Également, je vous invite à me contacter directement par courriel si vous aimeriez me présenter des entrepreneurs que vous voudriez avoir sur le podcast. Mon email est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.